Ils ont entamé il y a 30 ans une conversation à trois autour de la connaissance du monde et 30 ans plus tard, ils se retrouvent pour faire le point sur les avancées scientifiques qui ont changé le cours des choses. Les astrophysiciens Jean Oudouze et Michel Cassé, l'écrivain Jean-Claude Carrière sont donc à nouveau réunis autour d'un livre, Du Nouveau dans l'Invisible, publié chez Odile Jacob. Ils sont tous les trois mes invités dans un instant et vous allez pouvoir les questionner à votre tour en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une première mondiale dans l'exploration du cerveau des bébés.
Oui, une nouvelle méthode pour voir à travers le crâne très particulier des nouveau-nés par le trou de la fontanelle. On en discute avec un des auteurs de ces travaux, le médecin Olivier Beau.
Et puis nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée au surtraitement du cancer du sein. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Jean-Claude Carrière, Michel Cassé et Jean Oudouze sont donc mes invités cet après-midi autour de ce livre Du Nouveau dans l'Invisible. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue, une question commune pour commencer. Quel changement majeur pour vous au cours de ces 30 dernières années, s'il fallait retenir une idée importante, Jean Oudouze, c'est vous qui commencez.
Alors, ben, les ondes gravitationnelles, on les a vues. Et puis, il y a eu le prix Nobel la semaine dernière. Voilà. Donc ça, c'est une grande avancée. Mais je peux continuer.
On va laisser la parole à Michel Cassé.
Oui. Ben pour moi, c'est la mise en évidence de l'accélération de l'expansion de l'univers et donc d'une substance qui n'est pas une énergie atomique. Mm-hmm. Donc une forme d'énergie qui n'est pas habituelle.
Et pour vous, Jean-Claude Carrière,
ce sera
scientifique aussi ou pas ?
Non, ce n'est pas un événement scientifique. C'est que les scientifiques, de plus en plus, revendiquent ce qu'ils appellent le privilège de l'incertitude. Mmh. C'est-à-dire ce que nous pensions autrefois quand on disait scientifique, c'était quelque chose d'assuré, de certain, de prouvé. Plus du tout. C'est ça qui est très intéressant dans l'évolution. Et puis, naturellement, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on nous annonce dans la robotique.
C'est ça.
Michel Cassé pourra nous en parler. C'est un grand spécialiste.
Oui, on a vu ça.
En train de se robotiser, d'ailleurs. Parce que
c'est déjà un augmenté.
Oui, c'est déjà quelque chose de...
qu'on a en face de nous.
Homo Deus.
Allez, on en parle dans un instant ensemble, puisque vous avez repris cette conversation entamée il y a 30 ans. Et on le fera également avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Voir à travers le trou de la fontanelle le fonctionnement du cerveau des tout-petits, bien des chercheurs français et suisses viennent de mettre au point une toute nouvelle méthode d'imagerie à ultrasons, spécialement conçue donc pour les nouveau-nés. Des travaux inédits menés à l'hôpital Robert Debré à Paris et que nous découvrons avec l'un des auteurs principaux, Axel.
Oui, nous accueillons Olivier Beau au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin agrégé aux hôpitaux universitaires de Genève et vous êtes responsable de l'équipe à l'INSERM qui a mené ces travaux. Alors pourquoi l'imagerie du cerveau des nouveau-nés nécessite des méthodes particulières ?
Alors, cette imagerie est nécessaire parce que le nouveau-né, notamment le nouveau-né prématuré, est à risque de lésions cérébrales. Il est très important de connaître le bon fonctionnement ou l'activité cérébrale en lien avec cette prématurité ou des événements qui surviennent pendant son hospitalisation.
Et on ne peut pas utiliser les méthodes classiques facilement, c'est ça ?
Alors, il existe d'autres méthodes, comme par exemple l'électroencéphalogramme ou les IRM fonctionnels, mais ces deux méthodes présentent des désavantages. Il faut soit transporter l'enfant auprès de l'IRM, soit le G ne va pas pouvoir montrer l'activité cérébrale sur un plan anatomique. On ne va pas pouvoir localiser cette activité cérébrale en continu.
Ça peut représenter des risques pour un enfant d'être placé dans une IRM, très jeune ou pas ?
Non, ça ne présente a priori pas de risque. Le seul risque, c'est surtout de déplacer l'enfant, parfois dans un centre ou dans une pièce éloignée de son univers habituel. Et on sait que de déplacer un enfant vulnérable, parfois avec un poids de naissance extrêmement petit, peut être délétère pour cet enfant.
Alors la technique que vous avez développée utilise les ultrasons. Quelle différence avec l'échographie qui utilise aussi les ultrasons, je crois ?
Alors, ce sont des ultrasons. La grande différence, c'est la fréquence à laquelle on va acquérir les images. Sur l'ultrason classique, les images sont acquises à la vitesse de 50 images par seconde. Avec la nouvelle technique que nous avons développée avec Michael Tanter, il y a environ 10 000 images par seconde qui sont produites. Et ainsi, on peut visualiser des structures beaucoup plus fines, par exemple des tout petits vaisseaux. Et on peut également visualiser des flux sanguins beaucoup plus lents.
Alors pourquoi avoir besoin de passer par la fontanelle, ce trou dans le crâne des nouveau-nés ?
Eh bien, tout simplement parce que les ultrasons passent assez mal l'os, et lorsque l'os et la fontanelle se referme, eh bien, il va y avoir une ossification de cette partie, et donc on va avoir un accès moins important. Il est possible de faire de l'ultrason transcrânien, mais on perd un petit peu en sensibilité, et donc on perd la capacité de faire de l'ultrason fonctionnel.
Olivier Beau, votre technique s'appelle FUSI, c'est ça ?
Oui, ça veut dire imagerie fonctionnelle par ultrason en anglais.
C'est un drôle de nom pour un outil qui sert aux petits, non ?
Oui, c'est sûr, oui.
Quels sont les enjeux derrière FUSI, du coup, pour vous, pour traiter les enfants prématurés ?
Alors, les enjeux sont multiples. Le premier, c'est déjà d'observer et de visualiser l'activité cérébrale. En fonction des événements qui peuvent survenir auprès de cet enfant, en fonction des traitements qu'on lui donne au cours du temps et en temps réel. L'autre apport de cette technique est de pouvoir monitorer sur une longue durée cette activité cérébrale, un petit peu comme on le fait lorsqu'on monitore la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire ou la saturation en oxygène dans le sang.
C'est pour pouvoir réagir rapidement, je ne sais pas, en donnant un médicament ou en faisant un soin particulier ?
Oui, exactement. En fait, c'est pour mettre en adéquation parfaite les traitements que l'on donne par rapport aux besoins. Mmh. Pour donner un exemple, lorsqu'on a une chute de tension, cette chute de tension, elle est mesurée au brassard, au niveau d'un membre. On ne sait pas si cette chute de tension va retentir sur l'activité cérébrale. Avec cette technique, on va pouvoir savoir si cette chute de tension doit être traitée parce qu'elle a un impact négatif sur l'activité cérébrale.
Et vous pouvez utiliser du coup cette technique jusqu'à quel âge, à peu près ?
Alors théoriquement, on peut l'utiliser jusqu'à ce que la fontanelle se ferme, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 6 mois à 1 an. Mais cette technique va surtout être développée et être utile pour les enfants en soins intensifs, c'est-à-dire généralement dans les premiers jours de vie ou les premières semaines de vie.
Alors vous disiez vouloir suivre en continu l'activité du cerveau avec cette technique. On est sûr que des ultrasons dans un cerveau en développement en continu, c'est pas dangereux ?
Alors oui, on a des seuils à ne pas dépasser. Il faut savoir que notre technique utilise des intensités mécaniques, comme on dit, qui sont 1/10 de la limite autorisée. Et donc, l'activité, par exemple, d'échauffement des tissus par les ultrasons est très, très limitée par cette technique.
Est-ce que d'un point de vue de la...
Alors on a nos invités qui veulent réagir.
Je me demandais si le cerveau de certains enfants ne pouvait pas être dangereux pour la machine à ultrasons.
Bonne question.
Ouais. Olivier Beau.
Est-ce que les cerveaux des enfants pouvaient être dangereux pour l'ultrason ?
Oui.
Il y a un petit sourire avec la question.
Jean Oudouze.
Non, je voulais simplement dire que c'est une recherche qui est faite avec l'Institut Langevin. Et nous, on est tous les trois, on est très amis avec Mathias Fink et Michael Tander, dont je crois que ils sont à l'origine.
Absolument.
Ce sont des gens vraiment géniaux et qui travaillent à côté de Jussieu. Voilà.
Peut-être une dernière question, compte tenu du travail que vous avez mené. Est-ce que, d'un point de vue de la recherche, on peut imaginer aussi découvrir des choses avec cette imagerie ?
Oui, par exemple, et c'est d'ailleurs le sujet de la dernière partie de l'article, on va pouvoir mieux comprendre comment diffuse et se propage l'activité cérébrale lors d'une convulsion. Et on sait que cette propagation est très dépendante du timing par rapport au début de la convulsion, et ainsi mieux comprendre sur le plan fondamental comment se propagent ces convulsions et donc peut-être mieux les traiter.
Combien d'enfants est-ce que vous avez déjà passé, j'ai envie de dire, avec ce FUSI ?
Alors, bravo. On a passé, l'étude, on en a passé une petite dizaine. En fait, cette étude est surtout une preuve de concept. Il nous faut encore différentes étapes de développement afin d'améliorer encore le concept et la technique pour l'implémenter dans clinique. Mais à partir du moment où on pourra la faire utiliser par les soignants, on pourra imaginer qu'un grand nombre de patients et de prématurés pourront en bénéficier. Probablement à une échéance d'environ 2 à 3 ans.
Merci beaucoup en tout cas Olivier Beau avec cette technique. Alors c'est vrai que le nom n'est pas très heureux, un FUSI, mais en tout cas la technique est vraiment très intéressante et c'est une première à laquelle vous êtes à l'origine avec vos confrères. Merci beaucoup pour vos explications et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, la découverte d'anneaux autour d'une planète naine. Elle s'appelle Oméa. Elle orbite loin du Soleil, derrière Neptune. Elle est entourée d'anneaux de poussière. Déjà intrigante par sa forme de ballon de rugby, Oméa l'est maintenant encore un peu plus. La découverte de l'anneau a été possible au moment du passage de ce petit corps de 2000 km de diamètre devant une étoile lointaine et lumineuse, suivi par 12 télescopes dans le monde. Un anneau surprise, large de seulement 70 km, qui pose de nombreuses questions quant à sa formation et à sa durabilité. Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, l'un canadien, l'autre américain, se révèlent prometteurs pour protéger contre cette fièvre hémorragique. C'est le résultat d'un essai clinique mené au Libéria sur 1500 personnes. Les participants ont reçu l'une des deux doses ou un placebo pour ce test. 84% des patients ayant reçu la dose canadienne ont développé des anticorps spécifiques contre 64% pour le sérum américain. Des résultats très encourageants donc pour l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses qui pense que ces deux vaccins pourraient être approuvés d'ici 2018. Et puis pour terminer, les rats et les souris du métro new-yorkais évoluent pour manger les restes des fast-foods. Après avoir collecté de nombreux nuisibles dans les rues et les tunnels de la capitale, eh bien des chercheurs montrent que la plupart d'entre eux présentent tout un tas de mutations génétiques originales. Les gènes impliqués dans la digestion et le métabolisme sont les plus affectés en comparaison avec les rats et les souris de la campagne. Les rats du métro ont acquis par sélection des capacités plus importantes pour digérer les graisses et les sucres que nous laissons derrière nous. Allez, une conversation 30 ans plus tard avec mes invités dans un instant.
Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. D'ailleurs de ce nom-là, je ne m'en souviens pas. Mon souvenir me tue, mon souvenir me tue. D'ailleurs de ce nom-là, oui, j'ai tout oublié. Et le son de ta voix et l'odeur de l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde. Même pour tout l'or du monde, jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. Et s'il arriva que je fus fou de toi, ton souvenir n'est plus qu'un souvenir de plus, que brûle sans retour les sueurs de nos amours et le soleil noyé et qu'éclate l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Je ne t'aimerai, je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Et les fous de l'été n'ont rien n'y changera. Et les fous de l'été n'ont rien n'y changera.
Babix, c'est Camilla Jordana, je ne t'ai jamais aimé.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, ça s'appelle du nouveau dans l'invisible, un livre qui paraît chez Odile Jacob. 30 ans plus tard, ils se retrouvent, donc les astrophysiciens Jean Audouze et Michel Cassé, l'écrivain Jean-Claude Carrière. Ils sont nos invités cet après-midi et vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Il y a 30 ans, il y avait donc eu conversation sur l'invisible. Ce livre avait d'ailleurs remporté un grand succès auprès du public, Jean Audouze. Quel était le principe du livre d'ailleurs à
le
l'époque
principe,
chose
pratiquement la même chose, la différence c'est qu'on était plus sérieux. Enfin, on se réunissait à l'Institut d'Astrophysique et de façon,
à l'époque, oui.
Oui, et de façon légèrement plus régulière. Là, on s'est laissé aller à se voir de temps en temps.
Oui, mais pendant deux ans.
Pendant deux ans.
Plus longtemps.
Oui, plus longtemps. Ouais. Et de façon différente, voilà. Ouais.
Donc, mais deux années de discussion, Jean-Claude
oui,
Carrière.
Oui, à peu près deux années.
Et quelquefois un peu hard.
Et quelquefois des, oui, ils se disputaient beaucoup.
La bagarre. Non, oui, vous étiez en dehors de ça. Oui, le grand sage, en fait.
Scientifique. Hein. Ouais. Ma femme s'alarmait de temps en temps d'entendre dans la maison des cris, des disputes,
hurlements de douleur.
Oui. Et on est encore vivants, c'est étonnant. Hein.
Oui. Sur quel sujet, au fond, Michel Cassé, vous êtes le plus disputé?
Sur le cerveau de Boltzmann.
Ah oui, c'est vrai. C'est un gros sujet de dispute, ça.
Ah oui, oui.
Pas vraiment, mais je me piquais de les tendre jusqu'à leur tension de rupture.
Oui.
Pour savoir s'ils allaient résister, mais c'est moi qui ai craqué. Oui.
Alors, ce qui est très bien pour le lecteur, c'est d'être avec Jean-Claude Carrière, parce qu'au fond, le lecteur se pose les mêmes questions que Jean-Claude Carrière, parce qu'il se dit, qui est Boltzmann, par exemple?
Par exemple, je n'avais jamais entendu parler de lui, Ludwig Boltzmann.
Pourtant, c'est un...
Et oui, apparemment, c'était un grand homme.
Oui. Alors, qui était-il, Jean Audouze?
C'est un physicien autrichien qui a travaillé fin du 19e siècle, qui a sur la théorie cinétique des gaz, en particulier. Et puis il a travaillé aussi avec Maxwell, et il a évoqué des théories statistiques de particules. Voilà.
Mm-hmm. C'était un partisan de l'atome.
Oui, en fait, il s'est suicidé.
Oui, en Italie. Oui.
Il s'est suicidé parce que, on est mal les motivations profondes, mais c'était une période positiviste et énergétique.
Oui.
L'atome était considéré par les positivistes comme, je dirais, partie négligeable et surtout dangereuse parce qu'on ne le touchait pas, on ne le voyait pas. Mais Boltzmann est le père de l'explication de ce qu'on appelle l'entropie, qui est une mesure du désordre. Et il a donné une explication extrêmement profonde, justement, de l'évolution de l'univers, en faisant valoir que l'univers va, non pas à sa perte, mais vers un désordre généralisé au niveau global, alors que l'ordre se constitue localement.
Oui, Jean-Claude
Carrière. C'est pas pour aujourd'hui. Le désordre est lent, et l'entropie, c'est en effet cette lente dégradation des choses qui, apparemment, le caractérise tous, aussi bien dans l'ensemble que dans le détail.
Ça, c'est une loi universelle.
La seconde loi de la thermodynamique.
Ouais. Vous savez bien que lorsque vous rangez votre chambre, votre salon, ça vous prend un gros effort, alors que mettre quelque chose au hasard,
ça se fait
naturellement.
Oui,
c'est ça l'entropie.
C'est beaucoup plus simple. Comment vous avez choisi les sujets de discussion alors? Parce que vraiment, vous balayez un certain nombre de domaines très très larges, hein, qui vont du transhumanisme justement à l'actualité de l'astrophysique aujourd'hui, en passant donc par les robots. Jean Audouze, il y avait un plan de table ou
non,
pas,
en fait, on peut dire que le grand architecte, c'est Jean-Claude Carrière. Mm-hmm. C'est lui qui...
Mais c'est moi qui posais les questions et puis qui ai fait la première rédaction du livre.
Voilà.
Mais il y avait d'abord deux ou trois découvertes, ce qu'on peut appeler, par exemple, le boson de Higgs, dont on parlait depuis longtemps, a été, dans cette période-là, identifié, découvert. Les ondes gravitationnelles, dont Einstein disait qu'elles étaient si infinitésimales qu'on ne les percevrait et on ne les observerait jamais, on les a observées pendant 0,2 secondes. Un temps infinitésimal, mais on les a, et ce sont des ondes qui proviennent de l'espace sans aucune matière. C'est ça qui est très étonnant. Mais évidemment, le gros morceau par la suite, ça a été la robotique, dont Michel Cassé est un spécialiste.
Pas vraiment.
Et tout notre avenir, si vous voulez, ce qu'on appelle le transhumain, le développement de l'intelligence artificielle, dont tout le monde parle aujourd'hui, ça a été le gros morceau du livre.
Au fond, on parle des origines de l'univers quasiment jusqu'à l'infini et l'éternité, au fond. Il y a cette idée-là aussi.
Et puis on parle aussi,
hein,
un peu du futur. Enfin, on s'est amené à parler du futur. On termine justement sur un enfant qui va, un bébé qui est en train de naître,
qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on va lui faire.
Mais donc on a mélangé, honnêtement, comme toujours. Jean-Claude n'a pas été seulement l'organisateur des questions. On s'est permis aussi d'aller un peu dans ces territoires.
Mais alors, c'est amusant le terme que vous avez employé pour Jean-Claude Carrière. Vous avez dit que ça a été le grand architecte de ce livre.
Or, sans le franc-maçon.
le terme,
ni franc ni maçon, d'ailleurs.
Le terme employé de grand architecte, justement, dans cet ouvrage, c'est pour parler de Dieu en science, quoi, finalement. Oui. L'organisateur de toutes choses. C'est aussi une discussion.
Sauf que on a été un peu, comment dire, un peu critique vis-à-vis de Dieu.
Ah oui, c'est vrai que vous êtes permis.
On s'est permis, oui.
Toutes les audaces, alors. Oui. Michel Cassé.
Alors,
non, mais sérieusement,
pour être franc, donc sérieusement.
On peut parler aussi de Dieu quand on parle de science, alors.
Eh bien, donc si je voulais un peu plaisanter, je dirais que le vide pontique, c'est la meilleure approximation de Dieu en science, parce qu'il est père de la lumière et c'est un écarteur d'espace. Ceci dit, il est complètement différent du Dieu chrétien, islamique et hébreu, dans la mesure où il n'y a pas d'intention dans son œuvre. Mmh. Il est capricieux. Donc, et parce qu'il est quantique, or quantique est synonyme de fluctuant. Donc c'est Dieu sans l'être. Alors maintenant, pour revenir sur l'intelligence artificielle et les robots, mon intervention, bien partagée, si vous l'intérêt qui a pesé sur les robots, provient d'une exposition qui a été donnée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui s'appelait « Mathématiques, un dépaysement soudain ».
On s'était vu là-bas d'ailleurs, je me souviens, on a fait une tête au carré, oui.
Et la grande découverte physico-mathématique et informatique, pour moi, ça a été Pierre-Yves Audeillet, qui est un ami d'ailleurs de Jean Audouze, qu'on présentera aussi à Jean-Claude.
Vous pouvez nous le présenter ?
Oui, il est à l'INRIA,
de Bordeaux,
et il a introduit dans les robots ce qu'il appelle la curiosité artificielle.
Ouais.
C'est fascinant parce que les robots, comme des enfants, apprennent et se comportent de manière telle qu'à la fin, on les débranche parce qu'on ne les comprend plus.
C'est ça. On va écouter un extrait du film Ex Machina, justement, en 2015, qui aborde cette question de la conscience, en particulier chez les robots.
Tu connais le test de Turing ?
Il s'agit de faire converser un humain et un ordinateur. Si l'humain ne perçoit pas qu'il converse avec un ordinateur, le test est validé.
Dans ce cas, que peut-on en déduire ?
Que l'ordinateur a une intelligence artificielle. Tu développes une IA ?
Je l'ai déjà développée. Et au cours des prochains jours, ce sera toi l'élément humain du test de Turing.
Bordel de merde !
Oui, comme tu dis, Caleb, t'as gagné le gros lot. Parce que si le test est validé, toi... tu seras en plein cœur du plus grand événement scientifique de l'histoire de l'homme.
Si la machine que tu as créée a une conscience, ce n'est plus l'histoire de l'homme. Là, c'est l'histoire des dieux.
Alors là, on est en plein dans le questionnement, justement. Hein. Jean-Claude Carrière, l'intelligence des machines, des robots et la conscience.
On en parle beaucoup, de conscience aussi. Encore faudrait-il, comme le dit Michel Cassé à un moment donné, définir clairement ces mots. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Comment définir l'intelligence ? La conscience ? Ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant avec eux pendant ces deux années, c'est que la science cesse d'être affirmative et catégorique, comme elle l'était autrefois. Mmh. Hein, Marcelin Berthelot disait à la fin du 19e, l'univers est désormais sans mystère.
Ouais. Bon. Vous dites que la notion de vérité, effectivement, en science,
elle bouge, elle se pose des questions sans cesse, au point que, je crois que c'est Michel qui dit à un moment donné dans le livre, que dès qu'une théorie scientifique affirme les choses sont comme ceci, comme cela, à coup sûr, eh bien, elle se trompe. Mmh. Et qu'il revendique, comme je le disais au début, le privilège d'une certaine incertitude. Parce que la certitude, il la réserve à la croyance.
Ouais.
La croyance est certaine de ce qu'elle affirme, ne cherche aucune preuve, croyance religieuse ou autre, tandis que la science a le privilège du doute.
Ouais. Mais ça, c'est une idée, au fond, j'ai le sentiment qu'on a très peu intégré. Parce qu'on aimerait que la science nous dise nouvelle, toujours la vérité, effectivement. Mais, et on ne peut pas se fier, alors, finalement.
C'est ça qui m'a fasciné dans ce livre, c'est ça.
La science, c'est plutôt une méthode de pensée, plutôt que... On n'a pas à lui demander des... Enfin, si, on peut lui demander des résultats. Certes, il y a une partie de la science qui n'est pas discutable. Bon, ben, vous appuyez sur un bouton, la lumière...
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ça fait
Mais
ses
c'est
preuves.
Vrai que dans ces progrès, dans la... Eh bien, prenons par exemple l'intelligence artificielle. On a cité Pierre Audeillet. On aurait l'impression, d'après ses travaux, que les robots vont nous dépasser. Si vous parlez à Pierre-Yves Houdéillé, il va vous dire, au moins, pour le moment, hein, je n'en sais rien et j'en doute fort. Pour lui, il y a...
Donc le doute.
Il y a un doute. Évidemment, moi, je pose immédiatement la question, en ce qui me concerne, est-ce qu'il y aura des robots scénaristes, romanciers, etc.
Ça risque de bouleverser beaucoup la créativité.
Je donnais des cours à UCLA à Los Angeles, à l'école de cinéma, il y a de cela 25 ans, et quelqu'un m'a demandé, un étudiant, est-ce qu'un jour les ordinateurs feront des films? Et je lui ai répondu oui, sans aucun doute, et d'autres ordinateurs iront les voir. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus circonspect parce que je me mettrai peut-être dans la file d'attente pour aller voir des films réalisés par d'autres intelligences que la nôtre.
On avait des gens de l'IRCAM ici qui nous parlaient de robots qui faisaient de la musique.
La musique s'est établie depuis 20 ans déjà.
Mais... Alors j'ai envoyé à Jean-Claude une série de haïkus écrits par des êtres humains, écrits par une machine. Et je lui ai demandé...
Qui a écrit quoi? Impossible de le savoir.
Pour les haïkus, c'est impossible.
C'est trop impossible.
Il y a eu un concours au Japon de romans. Et sur 1100 candidats, il y a eu 11 finalistes. Un robot s'est glissé parmi les finalistes. Il n'a pas gagné. Mais enfin, on arrive, vous voyez. Pour moi, c'est très intéressant. Ça ne me fait pas peur du tout. Et même, je travaillerais volontiers avec un robot comme co-scénariste. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Parce que, en plus, en ce qui nous concerne, ça nous donne des personnages dramatiques nouveaux. Jusqu'à maintenant, nous n'avions que des êtres humains. Maintenant, nous avons les clones que nous pouvons utiliser.
Les avatars.
Nous avons les avatars qui sont notre double électronique. Nous avons les robots. Nous avons les drones pour transporter tout cela.
Donc ça ouvre un champ.
Ah oui, un champ énorme.
Absolument exceptionnel.
Mais ça ouvre un livre aussi. Parce que Jean-Michel Beignet,
qui est philosophe, qui s'intéresse à ces questions.
Et Philippe Alexandre, que vous devez connaître, ont écrit un livre qui s'appelle
Laurent Alexandre.
Fera-t-on l'amour avec les robots?
Ah oui, c'est une question qui vous préoccupe beaucoup apparemment aussi dans ce livre.
On le fait déjà.
Si vous dites Michel Cassé un moment, c'est formidable, avec les robots on va pouvoir peut-être inventer une nouvelle position. C'est vous c'est écrit dans ce livre.
C'est un secret qu'on peut dévoiler, il existe une prostituée robotique en Espagne.
Look out, mama, there's a white boat coming up the river with a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail, and it's less than a mile. I hope they didn't come to stay. It's got numbers on the side and a gun, and it's making big waves. Daddy's gone and my brother's out hunting in the mountain. Big John's been drinking since the took Amy Lou. So the powers that be left me here to do the thinking, and I just turned 22. I was wondering what to do, and the closer they got, the more those feelings grew. Daddy's rifle in my hand felt reassuring. He said, red men run, numbers add up to nothing. When the first shot hit the dock, I saw it coming. Raised my rifle to my eye, never stopped to wonder why. And I saw black and my face splash in the sky.
shelter me from the powder and the finger, cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. We fade away so young, with so much left undone. Remember me to my love, I know I'll miss her.
Voilà, c'est un album qui sort avec des chansons inédites qui datent de 1976. Neil Young avec en extrait Powder Finger à l'instant.
La tête au carré.
Il y aura bientôt dans le monde autant de mini-ordinateurs qu'il y a de calculatrices électroniques. Car nous sommes tous condamnés à utiliser un jour ou l'autre cette sorte de machine à écrire savante. Une révolution à l'horizon 90 qui n'épargnera personne. Ni la secrétaire, ni l'écolier, ni la ménagère.
L'opérateur insère le programme qui est sur une disquette dans l'ordinateur et il est prêt alors à faire son courrier, par exemple.
Une autre disquette est capable d'établir un budget, une autre de transmettre des messages à l'autre bout du monde, une autre encore de dresser sur graphique les dépenses pour l'année à venir.
Ce qu'il faudrait, c'est qu'il puisse y avoir quelqu'un dans une société qui arrive avec un ordinateur personnel dans son département et qui dise « je balance crayon, papier, calculatrice, machine à calculer et telex en une fois ». Les personnes vont être effrayées, mais je peux vous assurer que d'après mon expérience, après un mois ou deux, ça marche encore mieux qu'avant.
Mais le plus difficile quand on utilise ce genre de... d'appareil pour faire ses comptes, son budget, c'est de leur apprendre à mentir.
Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Pour cacher les découvertes, par exemple. Oui. En tout cas, ça, c'était vraiment la préhistoire.
Tout à fait.
1982. Oui. Et vous aviez commencé à discuter quasiment à cette période-là.
Deux ans après, oui. On a commencé en 86.
86, oui.
Mais, mais ce qui est assez amusant, c'est l'obsolescence de tous ces trucs, de toutes ces machines. Alors que des instruments très robustes, très anciens.
Comme le ballet.
Oui, continue.
Le ballet, vous dites, Michel Cassel.
Le ballet, ça peut être...
La serpillière.
Oui, la fourchette.
Non, mais Umberto Eco insistait beaucoup là-dessus, sur le fait qu'un certain nombre d'objets, comme un marteau, par exemple, ont été créés il y a longtemps, une fois pour toutes.
Oui.
Et on n'a jamais imaginé de changer la forme d'un marteau.
Exactement, c'est vrai. C'est ça.
Plus la technique devient raffinée, sophistiquée, et en quelque sorte échappant à notre contrôle manuel.
On la renouvelle.
Lorsque j'étais au Palais de la Découverte, c'était frappant. Ouais. Ce qui était, par exemple, l'électrostatique, vieille du XVIIIe siècle, ça marche toujours, les gens. On avait une salle de biologie humaine dans laquelle on n'oserait pas, que quelqu'un irait dans un cabinet médical pour se faire soigner dans une des salles du Palais de la Découverte. Épouvantable. Alors qu'elle avait été refaite il y a eu bien dans les années 90.
Michel Cassé, l'avantage quand même aussi de renouveler les outils et quand même aussi de les perfectionner à chaque fois, c'est qu'ils nous permettent, en particulier dans votre discipline, l'astrophysique, de voir des choses qu'on ne voit pas jusqu'à maintenant. C'est le cas aussi pour les ondes gravitationnelles. C'est parce qu'on a amélioré les outils qu'on peut aller aussi loin et ouvrir une nouvelle page de l'astronomie, non ?
Oui, mais je voudrais mentionner aussi l'astronomie des neutrinos et bientôt de la matière noire, qui est en plein développement, qui consiste... à faire de l'astronomie underground, c'est-à-dire on n'est plus en plein air, l'astronomie n'est plus la science de la haute lumière, et donc les détecteurs sont maintenant dans les grottes, enfouis, dans les tunnels, dans les souterrains.
Et pourquoi on les enfouit alors ?
C'est pour éviter les bruits de fond.
Voilà, c'est pour protéger les détecteurs de toute variation intempestive.
Toute la friture, quoi, sur la ligne.
Je peux dire qu'il y a un petit quelque chose sur le portable.
Le smartphone que vous avez dans la main. Ouais.
Alors, qui fait maintenant les photos, on les fait tous avec ça. Eh bien, il faut savoir que c'est grâce aux astronomes et à la recherche des on a cherché à faire des tubes disons des détecteurs de particules, des détecteurs à photons de plus en plus sophistiqués, et les industriels ont accepté de ne pas faire payer trop cher leurs détecteurs à photons parce qu'ils se sont servis de toutes les améliorations qui ont été faites pour justement faire ces téléphones portables.
Mais il faut citer aussi, excuse-moi, Internet, qui a été développé d'abord au CERN.
Ouais. Le web.
Quand Michel parle d'observations astronomiques dans des grottes sombres ou dans des sous-sols, hein, c'est parce que les neutrinos dont il parlait, ces particules infinitésimales, traversent toute chose.
Oui, traversent.
La Terre, vous, les micros qui sont devant nous, tout ça ne compte pas. Ça passe à travers tout. C'est ça l'invisible. Ouais. Il se passe dans l'invisible, c'est pour ça que nous avons écrit ce livre. Beaucoup de choses nouvelles.
Exactement.
C'est dans l'invisible. Oui.
C'est
que ça.
Exactement.
Dans ce que nous ne voyons pas.
C'est ça. Et cette nouvelle astronomie des ondes gravitationnelles en particulier, c'est une astronomie de l'invisible.
Oui, dans le visible, il n'y a rien de nouveau, pratiquement. Mais dans l'invisible, ça n'arrête pas.
Ah oui, ça, c'est clair.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on va voir, alors, après? Est-ce qu'on peut déjà le savoir, d'ailleurs?
On sait ce qu'on ne va pas voir. Le Big Bang, par exemple, ne peut pas être vu. Parce que l'univers est une flamme. Au commencement, si j'ose dire, au commencement non pas absolu des choses. Mmh. Incidemment, donc la grande découverte, disons pour certains, dont je suis, c'est que ce qui existe absolument n'existe absolument pas. Donc vous voyez, c'est ce que je disais.
Il faut expliquer ça peut-être.
Alors justement,
on peut s'offrir une explication.
Alors,
je ne suis pas contre.
C'est exactement, enfin si j'ose dire, c'est une formulation de ce que dit Jean-Claude. Par exemple, zéro, qui est la certitude absolue, il n'y a rien. Ça n'existe pas en physique.
Oui.
Il y a toujours quelque chose.
Même avant le Big Bang. Même avant le Big Bang.
Non, tout simplement parce que zéro est trop précis pour être quantique. Donc la précision, le principe d'incertitude n'est pas un vain mot. C'est un principe qui s'applique dans l'infiniment petit.
C'est
le principe d'Heisenberg. Ouais. Et donc si on généralise ce principe d'incertitude, zéro est certain.
Donc zéro
est trop précis, le temps zéro de la création, en d'autres termes, est trop précis pour être discible ou pour être accessible par la physique.
Jean-Claude Carrière.
Le zéro, à lui seul, et peut-être nous le ferons un jour, mériterait un livre.
Oui, tout à fait.
Parce que le zéro est inconnu des Grecs et des Romains. Il n'existe pas, donc il paralyse d'une certaine façon non seulement la numérotation, mais toute recherche. Le zéro nous vient de l'Inde par les Arabes, et c'est à partir des Arabes et de l'algèbre, qui d'ailleurs est un mot arabe,
algèbre,
que commence la recherche scientifique, qui jusque-là est bloquée. Romains n'étaient pas, comme le dit Thibaut Damour, des inventeurs scientifiques.
Donc, c'était les Grecs.
Des constructeurs et des juristes remarquables, mais il n'y a rien de scientifique dans la vie de Rome.
Non, c'est vrai.
Il y a des questions pour vous de la part des auditeurs. Deux, en particulier, Jean nous dit, est-ce que les trous noirs font partie de l'invisible?
Ah ben oui,
Jean
par définition. Enfin, pas l'extérieur du trou noir, qui est éminemment visible, mais le trou noir lui-même, il est totalement invisible.
Ouais. Et on ne pourra pas le voir, la lumière ne s'en échappe pas.
Ah ben ça, c'est par définition.
Ouais.
Voilà. Mais par contre, ce qui est sidérant, enfin ce qui est le paradoxe, c'est que les choses les plus brillantes dans le ciel, ce sont généralement les trous noirs.
Alors donc,
l'extérieur.
Je suis obligé de.
Alors Michel Cassé, oui.
D'aller contre.
Pourquoi?
Ça commence, il est très heureux.
Ils vont
discuter. Oui.
Si le trou noir, c'est une notion classique, et on sait qu'Einstein a toujours refusé la mécanique quantique. Si on insuffle la petite fumée quantique dans le naseau du trou noir, il se met à briller. En d'autres termes, Hawking a démontré que les trous noirs ne sont ni trous ni noirs, qui sont gris sur les bords.
Ah ben justement, Paul demande, est-ce qu'on peut parler des couleurs de l'invisible, Michel Cassé?
Oui. Par exemple, le spectre électromagnétique, le rayonnement radio, le rayonnement millimétrique, etc. Donc les rayonnements qui sont en deçà du rouge, donc infrarouge, etc., sont des rayonnements de la tendresse. Et les rayonnements au-dessus du visible, c'est-à-dire ultraviolet, X et gamma, sont des rayonnements de la violence. Alors on peut donner une couleur à la violence, mais j'estime que le choix du détecteur détermine la vision que l'on prend, que l'on saisit de l'univers. Par exemple, avec un détecteur infrarouge, on voit des étoiles naître, événement tendre. Avec un détecteur gamma, on voit des étoiles exploser. Donc il y a intention dans le choix du détecteur et coloration psychologique.
Donc il y a de la tendresse et de la violence aussi en astronomie.
Grâce à eux, j'ai assisté un jour à l'apparition d'une galaxie.
C'est vrai ?
Oui, mais qui n'était évidemment pas visible, mais qui, à travers tout un processus très compliqué d'appareil, sur un écran d'ordinateur, peu à peu apparaissaient des taches qui étaient une galaxie très lointaine. Et en y ajoutant des couleurs, on en dégageait les structures.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite et fin de notre discussion avec nos invités et vos messages sur franceinter.fr.
Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'amour, l'ami, y en a encore ou plus, on a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau rouillée. Tu dis mago économie, le don, le dû, le débit, trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite, monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée.
Dans la tête, Albin de la Simone sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
C'est une nouvelle voisine, pleine de promesses, à peine plus grande que notre Terre. Proxima B est la planète la plus proche de nous et la plus similaire aussi, en dehors de notre système solaire. Une planète rocheuse et non gazeuse, des températures entre moins 30 et plus 30 degrés, idéale pour s'imaginer y vivre un jour. Mais la vraie question, y a-t-il sur cette planète une atmosphère compatible avec une forme de vie ? Mystère ? Et surtout patience, car le voyage s'annonce bien long. Aujourd'hui, il faudrait pas moins de 84 000 années pour rejoindre Proxima B.
Voilà, Proxima B, c'était en 2016. Jean-Claude Carrière, Michel Cassé et Jean Audouze, nos invités. Alors évidemment, vous abordez aussi cette question des exoplanètes. C'est d'ailleurs une des questions les plus fascinantes aujourd'hui, parce que c'est celle de la vie potentiellement existant ailleurs.
Hein, oui, moi je suis assez partisan de ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire qu'il y a des petits grains de vie. Alors, qu'il y ait des gens intelligents, il n'y en a pas partout, mais par contre, des grains de vie, il peut y en avoir beaucoup, puisque par exemple, dans la... grâce à la sonde Rosetta, Jean-Pierre Bibring et consorts ont trouvé des molécules extrêmement compliquées dans le noyau d'une comète, qui est un morceau de glace. Quelqu'un comme Fred Hoyle a peut-être raison à savoir que de la vie primitive, c'est pas de la vie comme nous, mais de la vie primitive, il devait y en avoir partout. Ouais. Les conditions, effectivement, il faut savoir que la Terre, Ça ne fait jamais que 50 ans qu'on se préoccupe de ce qu'il y a, enfin, de l'espace, et alors qu'il y a 4,5 milliards d'années que peut-être des bactéries existent sur Terre.
Michel Cassé.
Je nuancerai un peu. C'est pas la vie qui tombe du ciel. Ce sont des molécules complexes qui font plouf dans des petites mares chaudes.
Et on en a parlé hier ici même. Hein.
Comme dirait Darwin. Et c'est dans les petites mares chaudes que
cette chimie.
Oui,
hein.
Cette chimie particulière. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, une grande découverte trappiste aussi. Hein. On a découvert sept planètes autour d'une étoile qui est une naine rouge. Alors, elle est différente du Soleil. Les planètes, trois d'entre elles sont dans la zone habitable, ça veut dire qu'on peut soupçonner que l'eau y est liquide. Mais moi, en ce qui me concerne, je serai dubitatif parce que les naines rouges, pour les avoir étudiées, sont des étoiles extrêmement turbulentes qui émettent beaucoup de particules. Et je crains que sur ces planètes, tout soit grillé.
Ouais. Alors, comme il est 14h49 et que nous sommes en direct, on va saluer Jean Oudouze parce qu'il a un train à prendre à Montparnasse pour aller où ? À Nantes, d'ailleurs, rencontrer le public à la librairie Durance. Ce sera tout à l'heure à 18h30 autour de votre livre, au fil d'une... le titre de votre livre, pardon, Jean Oudouze.
L'école de la curiosité.
Voilà, l'école de la curiosité. Voilà, c'est le bon titre. Et ce sera donc tout à l'heure à 18h30 chez Durance à Nantes. Merci beaucoup d'être venu. Et nous, on poursuit la discussion avec Jean-Claude Carrière et Michel Cassé. Jean-Claude Carrière, sur le nombre d'exoplanètes.
Alors
justement...
moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans leurs affirmations. La première, c'est qu'il serait tout à fait impensable que nous soyons seuls dans l'univers à être intelligents, clairvoyants, conscients.
Sauf qu'on a
une anomalie extravagante, étant donné l'immensité indescriptible de l'univers. Ouais. La deuxième chose, très frappante, c'est
au revoir,
la deuxième chose
qu'ils
m'ont dit tous les deux, c'est que oui, il y en a d'autres, mais nous ne les connaîtrons jamais. Jamais. Il sera impossible d'entrer en contact.
Parce qu'on est trop loin.
Trop loin, voilà.
Donc, les autres existent probablement, puisque nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais ils sont si loin dans l'espace et dans le temps qu'ils sont comme s'ils n'étaient pas.
C'est comme ce qu'on disait dans le reportage tout à l'heure. Il faut au moins 80 000 ans, c'est ça, pour accéder à la plus proche.
Oui,
et encore, on ne sait pas où aller. À condition qu'ils soient au même niveau d'évolution, qu'ils aient envie de nous parler, qu'ils en soient capables.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans les siècles qui viennent, on inventera justement des technologies qui nous permettront d'aller beaucoup plus vite,
supraluminique,
sans altérer le corps humain?
Il faudrait aller au-delà de la vitesse de la lumière.
Exactement.
Pour l'instant,
alors ça, pour l'instant, ce n'est pas possible.
À moins qu'on découvre des dimensions supplémentaires qui fassent court-circuit.
On peut rêver, disons, beaucoup des plurivers qui nous entourent, y compris dans
ça, c'est une discussion.
Dans ce studio où nous sommes en ce moment, il y a peut-être des milliards d'autres univers pliés dans tous les recoins de votre studio.
Ouais.
Alors, il est possible, il est concevable, en tout cas par des romanciers, qu'on utilise un de ces univers pour aller ailleurs.
Ah oui, c'est ça, ce serait pratique.
Oui,
Mais en fait, il faudrait trouver
techniquement les moyens.
On pourrait faire la même chose avec les trous noirs, d'ailleurs, Michel Cassé. Hein.
Oui, mais enfin, je prends cela comme une métaphore, évidemment. Disons que ce qui s'annonce, c'est véritablement une révolution mentale qui consistera à remplacer l'évolution darwinienne par une évolution dirigée et voulue. Donc, on passera de l'évolution darwinienne à l'évolution lamarckienne.
C'est-à-dire qu'on a la main sur les choses ?
Ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, on passera à la génération suivante ce qui a été acquis directement. Bon, pour les ordinateurs, c'est facile. Il suffit de transférer la mémoire de l'un dans l'autre. Et donc, l'évolution est complètement bouleversée. La théorie de l'évolution est bouleversée.
Pour l'être humain, c'est plus difficile.
Oui, mais l'être humain sera hybridé. Bon, si on se projette très loin.
Mais même quand on parle de l'homme nouveau.
Mais l'homme transformé, il existe déjà. L'homme augmenté, c'est une réalité déjà.
C'est une réalité.
Mais si on veut changer l'être humain, faire un homme nouveau, il faut supprimer l'évolution naturelle darwinienne.
Mais on est déjà en train de le faire.
C'est en train d'être fait, mais c'est-à-dire que vous savez, nous avons moins de dents qu'autrefois, notre tête est plus ronde, etc. Il y a une très lente évolution qu'il faudra arrêter. Et si on atteint l'immortalité, il faudra supprimer la naissance. Et ça, c'est quand même autre chose.
Oui.
C'est-à-dire estimer que nous sommes arrivés à un tel point de perfection que nous n'avons plus de progrès à faire.
Et on invente la mort de la mort.
C'est la mort de la mort.
La mort de la mort.
C'est le transhumanisme.
Mais la mort de la
mort,
c'est la mort de la naissance aussi.
Oui.
C'est donc la mort de la vie.
Oui, mais en même temps, il faut pas s'effrayer parce que, si vous voulez, il était un temps où, par exemple, prendre le train était réputé mortel. De la même manière, on aborde ici des révolutions incommensurables, inouïes. Il est normal que nous soyons un peu inquiets. Mais en ce qui me concerne, et d'autres également prennent cette position, je ferai encore un peu confiance à l'humanité.
Oui, quand même un petit peu.
Oui.
Oui. Jean-Claude Carrière, vous êtes
plus pessimiste. Il fait confiance à l'humanité scientifique. De toute façon, nous sommes tous d'accord pour dire que nous allons affronter dans peu de temps une crise écologique.
On est déjà dedans, d'ailleurs.
D'une ampleur, si on va dire au Bangladesh qu'une crise nous menace, ils vont le regarder avec de grands yeux.
Ils sont déjà les pieds dans l'eau.
Ils sont déjà les pieds dans l'eau, et le midi de la France est frappé cette année d'une sécheresse absolument inconcevable. Ouais. Nous, tout à fait nouvelle. Donc, cette crise-là, je ne sais pas si la science pourra y remédier, mais elle nous attend.
Michel Cassé, est-ce que la science aura les outils pour nous permettre d'affronter... Nous vivons là aujourd'hui.
Oui. Si vous voulez, je pense qu'il faut. Scientifique, voilà. Oui, c'est non. Oui et non. Voilà.
Il ne faut pas faire le procès de l'allumette.
C'est le doute.
Il ne faut pas faire le procès de l'allumette, il faut faire le procès de l'incendiaire. Et l'incendiaire est politique.
Oui. Bon, il est humain quand même aussi beaucoup.
Il est politique et financier.
Et financier.
Oui. Oui. Mais il est humain quand même avant tout, non ?
Il est humain, oui.
Et on a tous notre part de responsabilité dans l'incendie.
C'est absolument vrai. Nous ne sommes pas des victimes propitiatoires. Ouais. Je pense que. La conscience honorerait de considérer que l'humanité n'est pas un état à subir, mais une dignité à conquérir.
Mmh. Mais il y a du progrès à faire aussi, alors, dans ce domaine.
De ce point de vue, oui.
Ouais.
De ce point
de vue. Y compris en ce qui nous concerne.
Absolument.
Enfin, ce sera le sujet dans 30 ans de.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous faites la conclusion de l'émission pour moi, Jean-Claude Carrière, parce que évidemment, vous allez continuer la discussion.
On continue, évidemment.
Voilà, évidemment, dans 30 ans.
S'il y a une chose qui ne s'arrête pas, c'est la discussion.
C'est ça. Et Odile Jacob, donc dans 30 ans, va publier votre troisième tome de.
On l'a déjà signé.
C'est ça. Eh bien, on aime beaucoup ça et on aura beaucoup de plaisir à vous recevoir si dans 30 ans, évidemment, la tête au carré existe encore. Ouais. Chose quand même peut-être improbable. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, à tous les trois.
Merci à vous.
D'être venu pour cette discussion à bâton rompu telle que vous
et
l'avez
à tous
justement.
Ceux qui nous ont écoutés, qu'ils passent une bonne journée.
Merci Jean-Claude Carrière, merci Michel Cassé. Ça s'appelle Du nouveau dans l'invisible, ça vient de paraître, donc avec votre camarade Jean Audouze. Et c'est publié, vous l'avez compris, chez Odile Jacob.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu. Si je vous demande la couleur du mois d'octobre, vous me répondez...
On a vu beaucoup de roses
car le rose est la couleur de la grande kermesse mondiale du cancer du sein qui a lieu tous les ans en octobre. Les grandes marques de cosmétiques, les revues féminines et les people s'associent pour célébrer l'importance de la mammographie de dépistage et inciter les récalcitrantes à s'y soumettre.
Ouais, difficile d'y échapper. Et j'ai même vu, je crois, la Tour Eiffel rose.
Et oui, tout est rose. Tout est rose. Et pourtant, la réalité scientifique est beaucoup moins rose. Ce dépistage est loin d'être anodin, car si quelques femmes sont réellement sauvées par une mammographie systématique après 50 ans, d'autres, plus nombreuses, sont traitées lourdement pour des tumeurs qui n'auraient jamais évolué. Ce que les femmes ne savent pas, c'est que les petits cancers détectés à la mammographie et confirmés par les biopsies, ils disparaissent souvent sans traitement ou ils n'évoluent jamais. Et cette réalité dérangeante est à l'origine d'une controverse croissante sur la mise en balance des bénéfices et des risques de la mammographie de dépistage. Et donc, d'ailleurs, Marisol Touraine avait organisé en 2016, comme pour les vaccins, une grande concertation pilotée par l'Institut National du Cancer.
Et alors ?
Rappelez-vous, la conclusion du comité d'orientation était que l'information des femmes sur les bénéfices et les inconvénients de ce dépistage était très insuffisante et que, face à ces incertitudes, il fallait rediscuter le caractère systématique du dépistage organisé. Mmh. Et cette recommandation dérangeante n'a malheureusement pas eu de suite. Bien au contraire, les partisans du dépistage organisé avancent que si son bénéfice en termes de vie sauvée est modeste, un diagnostic précoce permet des traitements plus légers et notamment un recours moins fréquent à l'ablation du sein, la terrible mastectomie.
C'est plutôt positif quand même, non, Dominique ?
Ça serait positif si c'était vrai, surtout. Et c'est là qu'intervient le collectif Cancer Rose, un groupe de médecins et de scientifiques qui plaident pour une information honnête des femmes sur ce dépistage. Ils ont utilisé les données de l'assurance maladie pour suivre le nombre de mastectomies réalisées en France depuis 17 ans. Leur étude sera publiée dans le prochain numéro de la revue Médecine et il est en accès libre depuis ce matin. Le lien est sur la page de ma chronique sur le site de France Inter. Ce travail démontre avec beaucoup de rigueur que l'introduction du dépistage organisé en 2015 2004 coïncide avec une augmentation et non une diminution des mastectomies. Cette étude jette un pavé dans la mare des partisans du dépistage mammographique. Franchement, il est temps que les femmes soient correctement informées et que les recommandations de la concertation mandatée par Marisol Touraine soient prises en compte. Là où on a eu la chance, c'est que personne n'a suggéré à la ministre de rendre la mammographie obligatoire.
Voilà donc une chronique à retrouver sur franceinter.fr. Puisqu'on a du temps, Dominique, devant nous, l'Evothyrox, il y a du nouveau ou pas ?
Il y a un communiqué de l'Agence du médicament qui est assez flou, qui dit que en fait, les problèmes rencontrés, c'est surtout des sur- ou des sous-dosages en hormones, mais qu'en même temps, il y a des trucs qu'on n'a jamais vus avec des sur- et des sous-dosages, mais que quand même, ce n'est pas lié au nouveau médicament. Donc très honnêtement...
On retient quoi alors du coup ?
Pas grand-chose, honnêtement, ouais. Pas grand-chose.
Bon, donc rien n'a changé depuis la semaine dernière.
Non, non, on attend le nouveau médicament qui va sortir lundi prochain.
Merci beaucoup Dominique et à jeudi. C'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci beaucoup à Valentin Hazan et Raphaël Rousseau qui étaient à la technique. Demain, nous serons avec le club en compagnie de Fabrice Nicolino pour un livre sur la malbouffe. Marie-Odile Monchicourt viendra nous parler de son spectacle scientifique et puis nous ferons la connaissance avec deux femmes de science qui viennent d'être récompensées.